Chapitre 8. Comme tout intellectuel, Harry Seldon avait librement utilisé les différents services de la bibliothèque impériale. La plupart du temps, il recourait aux liaisons télématiques, mais il avait eu l'occasion de s'y rendre en personne, plus d'ailleurs pour échapper aux pressions du projet de psychohistoire que pour toute autre raison. Ces deux dernières années, depuis qu'il avait élaboré son plan pour trouver d'autres sujets comme Vanda, il s'y était installé un bureau particulier, ce qui lui permettait d'accéder directement à l'immense stock de données de la bibliothèque. Il avait même loué un petit appartement dans un secteur adjacent sous le dôme. Ainsi pouvait-il aller à pied à la bibliothèque quand ses recherches, toujours plus absorbantes, l'empêchaient de regagner le secteur de Strilling. Aujourd'hui toutefois, son plan avait acquis une dimension nouvelle, et il désirait rencontrer Lasse Zenau. C'était la première fois qu'il le rencontrerait en tête-à-tête. Obtenir une audience du directeur de la bibliothèque impériale n'était pas chose facile. L'homme avait une haute opinion de la nature et de la valeur de sa fonction, et l'on disait souvent que même l'empereur devait se rendre sur place et attendre son tour lorsqu'il voulait consulter le bibliothécaire en chef. Seldon, en revanche, n'eut aucun problème. Zenau le connaissait bien, même s'il ne l'avait jamais vu en personne. « Très honoré, Premier ministre, » dit-il pour l'accueillir. « Je ne vous apprendrai pas que je n'occupe plus le poste depuis 16 ans, » dit Seldon en souriant. « L'honneur du titre demeure. En outre, monsieur, vous avez joué un rôle essentiel pour nous débarrasser du joug brutal du pouvoir militaire. Vous savez que la junte a plusieurs fois violé la règle sacrée de neutralité de la bibliothèque.
« Ah !» se dit Seldon. « Voilà donc qui explique sa promptitude à me recevoir. »«
Simple rumeur, » observa-t-il tout haut.
« Bien. Dites-moi maintenant ce qui vous amène ici, » demanda Zenau sans pouvoir s'empêcher de jeter un bref coup d'œil sur son bracelet crône.
« Monsieur le directeur, il ne vous sera pas facile de répondre à ma requête. Je désire disposer de plus de place à la bibliothèque. » Je vous demande l'autorisation de faire venir un certain nombre de mes collaborateurs. Je veux entreprendre un programme long et complexe de la plus haute importance.
Le désarroi s'inscrivit sur les traits de Lasse Zenau.
Vous demandez beaucoup. Pouvez-vous expliquer l'importance de ce projet?
Oui. L'Empire est engagé dans un processus de désintégration.
Il y eut un long silence, puis Zenau reprit.
« J'ai entendu parler de vos recherches en psychohistoire. Je me suis laissé dire que votre nouvelle science contient la promesse de prédire l'avenir. Sont-ce des prédictions psychohistoriques que vous évoquez là ?»«
Non.
Je ne suis pas encore parvenu au stade où je peux parler de l'avenir avec certitude. Mais on n'a pas besoin de psychohistoire pour se rendre compte que l'Empire se désagrège. » Vous pouvez le constater vous-même.
« Mon travail ici m'accapare totalement, professeur Seldon, » soupira Zenau.
« Je suis plus ignorant qu'un enfant des problèmes politiques ou sociaux.
Vous pouvez à tout moment consulter les informations que détient la bibliothèque. Tenez, rien que ce bureau. Il est bourré de toute la documentation imaginable en provenance de l'ensemble de l'Empire galactique.
Je suis le dernier à me tenir au courant, j'en ai peur. »
dit Zenau avec un sourire triste.
« Vous connaissez le vieux proverbe, c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Il me semble pour ma part que l'Empire a été restauré. Nous avons de nouveau un empereur. »
Simple façade. Dans la plupart des provinces périphériques, on cite son nom de manière rituelle, mais il ne joue pas le moindre rôle dans leurs décisions. Les planètes extérieures maîtrisent leur propre politique, et, plus important, elles ont la maîtrise des forces armées locales, qui ne dépendent pas de l'autorité impériale. Si l'empereur voulait exercer son pouvoir hors de la sphère des planètes intérieures, il échouerait.
Je doute qu'il s'écoule plus de 20 ans avant que l'une d'elles ne déclare son indépendance.
Nouveau soupir de Zenau.
Si vous avez raison, nous vivons la pire période que l'Empire ait jamais connue.
Mais quel rapport avec votre désir d'obtenir plus d'espace et plus de personnel à la bibliothèque?
Si l'Empire s'effondre, la bibliothèque galactique
n'échappera pas au carnage général.
« Oui, mais il faudra bien qu'elle résiste, » dit Zenao avec conviction. « Nous avons déjà traversé des temps difficiles, et il a toujours été admis que la Bibliothèque Galactique de Trantor, en tant que conservatoire de l'ensemble du savoir humain, devait rester inviolée. Il continuera d'en être ainsi à l'avenir. »
« Ce n'est pas certain. Vous avez reconnu vous-même que la junte avait violé sa neutralité.
Pas sérieusement.
Cela risque d'être plus sérieux la prochaine fois. Or, nous ne pouvons permettre qu'on touche à ce conservatoire des connaissances humaines.
En quoi le renforcement de votre présence ici l'empêcherait-il ?
Ma présence, non. Mais le projet qui m'intéresse, oui. Je veux créer une grande encyclopédie qui contiendra tout le savoir indispensable à l'humanité pour se rebâtir au cas où le pire surviendrait. Une encyclopédie galactique, si vous voulez. Nous n'avons pas besoin de la totalité du contenu de la bibliothèque. Une bonne partie est sans intérêt. Les bibliothèques de province réparties dans la galaxie peuvent également être détruites, et de toute façon la plupart des données locales sont accessibles par liaison télématique avec la Bibliothèque Centrale Galactique. Mon projet se veut donc strictement indépendant, puisqu'il vise à contenir, sous la forme la plus concise possible, l'essentiel du savoir nécessaire à l'humanité.
Et si cette encyclopédie est également détruite?
J'ose espérer qu'elle ne le sera pas. J'ai l'intention de trouver une planète suffisamment éloignée, aux confins de la galaxie, sur laquelle je pourrais transférer mes encyclopédistes afin qu'ils y travaillent en paix. Jusqu'à ce qu'on l'ait trouvée, toutefois, j'aimerais que le noyau de ce groupe ait accès aux installations de la bibliothèque pour sélectionner les éléments nécessaires au projet. Zenao grimaça.
Je vois où vous voulez en venir, professeur Seldon, mais je ne suis pas sûr que ce soit réalisable.
Pourquoi, monsieur le bibliothécaire en chef?
Parce que ce titre ne fait pas de moi un monarque absolu. J'ai un conseil d'administration d'une importance non négligeable, une sorte de parlement auquel je devrais soumettre votre projet d'encyclopédie. Or, il n'est pas dit qu'il passe aisément.
Vous m'étonnez.
Il ne faut pas. Je ne suis pas un directeur très populaire. Depuis plusieurs années, le Conseil se bat pour limiter l'accès à notre établissement. J'ai résisté. Ils sont déjà ulcérés que je vous ai fourni votre petit bureau.
Limiter l'accès?
Tout juste. Ils veulent instaurer un nouveau système de fonctionnement. Pour obtenir une information, il faudra demander à un bibliothécaire d'en faire la recherche. Le Conseil ne veut plus que les gens accèdent librement aux locaux et se servent eux-mêmes des ordinateurs. Ils prétendent que les dépenses nécessaires à l'entretien de l'ensemble des équipements de consultation deviennent prohibitives.
Mais c'est impossible. La tradition de libre accès à la bibliothèque galactique est millénaire,
certes. Mais ces dernières années, les crédits accordés à notre institution ont été amputés à plusieurs reprises, et nous n'avons tout simplement plus les fonds dont nous disposions auparavant. Nous rencontrons des difficultés croissantes à maintenir à niveau notre équipement.
Seldon se frotta le menton. Si vos crédits diminuent, j'imagine que vous devez réduire les salaires et licencier du personnel, ou tout du moins ne plus en embaucher.
Vous avez parfaitement raison.
Cela ne me paraît pas logique. Comment voulez-vous à la fois réduire les effectifs et imposer à votre personnel un tel surcroît de travail? Il n'arrivera jamais à effectuer lui-même toutes les recherches bibliographiques que demandera le public.
L'idée est qu'on ne trouvera pas toutes les informations demandées et que le public ne pourra accéder qu'à celles que nous aurons jugées essentielles.
Donc non seulement vous abandonnez le principe de la bibliothèque ouverte à tous, mais également celui de la bibliothèque générale.
J'en ai peur.
Je ne peux pas croire qu'un seul bibliothécaire puisse vouloir une chose pareille.
Vous ne connaissez pas Gennaro Mameri, professeur Seldon.
Devant l'air ahuri de son interlocuteur, Zenao poursuivit.
Qui est-ce, vous demandez-vous? C'est le meneur de cette fraction du Conseil qui désire fermer la bibliothèque au public. Et cette fraction grandit de jour en jour.
Si je vous laisse, vous et vos collègues, constituer un noyau indépendant dans cette institution, un nombre croissant de membres du Conseil risque d'apporter leur voix à Memery, même si, a priori, ils ne sont pas dans son camp, et dans ce cas, je serai contraint de présenter ma démission.
« Vous voyez bien, » dit Seldon avec une soudaine énergie, « cette menace de fermeture, de restriction d'accès, de refus de délivrer une information complète, sans oublier les restrictions budgétaires, tout cela est en soi le signe de la désintégration de l'Empire. N'êtes-vous pas de mon avis ?»«
Vu sous cet angle, vous n'avez peut-être pas tort. »
Alors laissez-moi m'adresser au Conseil. Je leur expliquerai ce que risque de nous réserver l'avenir et ce que je désire entreprendre. Je réussirai peut-être à les convaincre, comme j'espère vous avoir convaincu.
Zenao réfléchit quelques instants.
« Je veux bien vous laisser
essayer.
Mais ne vous faites pas trop d'illusions quant à vos chances d'aboutir.
Je dois courir le risque. Prenez, je vous en prie, les dispositions nécessaires, et faites-moi savoir où et quand je pourrai rencontrer le Conseil. »
Seldon quitta Zenao l'esprit inquiet. Tout ce qu'il avait dit au bibliothécaire en chef était vrai et sans grand intérêt. La véritable raison pour laquelle il allait avoir besoin de la bibliothèque demeurait secrète. En partie, parce qu'il ne la cernait pas encore très clairement.